radiovostok.ch.
Il enflamme les nuits genevoises depuis 2002, il est très certainement le doyen des DJ locaux et tout le monde le connaît. DJ Mitch, de son vrai nom Michel Kaya, profite du confinement pour publier toutes les semaines une vidéo sur YouTube, un documentaire intitulé Jazz, Rumba et Calypso, une histoire de quelques musiques noires et créoles à travers le phonographe et le cinéma. Bonjour Mitch.
Bonjour.
Avant de parler de cette série vidéo, je propose qu'on dresse votre portrait. Depuis quand écoutez-vous de la musique? Est-ce que vous vous souvenez du premier morceau qui vous a fait tilt?
Alors j'écoute de la musique depuis mon enfance, puisque mes parents avaient un système de son, c'est une des premières choses qu'ils avaient acheté. Je ne pourrais pas vous dire quel est le premier morceau que j'ai écouté, parce que c'était de la musique classique, donc je pense que c'était peut-être les bases de Chopin. Ma mère adorait ça, ou du Beethoven ou du Mozart, mais je ne me souviens plus exactement, évidemment.
Et le premier disque que vous ayez acheté?
Alors voilà, ça, celui-là je me le rappelle parce que j'écoutais quand j'avais 16 ans une émission de jazz sur la radio suisse romande. Générique m'avait impressionné et j'avais écrit à la radio pour savoir de qui il s'agissait. Et il m'avait donné le nom et référent du disque que j'ai acheté, qui était un disque folk, ouais, qui s'intitulait L'histoire du blues, l'histoire du jazz, et c'était le volume 2 consacré au blues. Et le morceau était de Blind Willie Johnson.
Et c'est comme ça un peu que tout a commencé, que vous avez...
Oui, j'ai évidemment commencé à acquérir des disques, puisqu'à l'époque, on pouvait très facilement travailler pour subvenir à ses loisirs. Moi, dès l'âge de 16 ans, j'ai pu travailler parallèlement à mes études.
Et à quel moment est-ce que vous vous êtes mis à mixer?
Alors, je me suis mis à mixer quand j'ai commencé à ne plus avoir de réveil. C'est-à-dire quand j'ai plus besoin de me lever tôt le matin, que j'ai pu recommencer à sortir le soir. J'ai travaillé à partir de 2000 à l'Université de Genève comme assistant de recherche et par conséquent, je pouvais organiser mon temps comme je l'entendais. J'avais plus d'horaire.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité?
Alors, ce qui me plaît, c'est de passer des sons que moi-même beaucoup aimé, mais je dois dire que je ne pensais pas que je pourrais les utiliser actuellement pour faire des soirées et faire danser les gens. J'imaginais pas du tout ça, mais c'était la musique de danse sur laquelle nous, on dansait à la fin, au début des années 60, avant, disons, dans les premières fois, on a pu commencer à faire des soirées. Trop nous, on amenait nos 45 tours, on avait une platine vinyle, et puis à tour de rôle, on passait des disques, faire danser les copines et les copains.
Et pourquoi est-ce que vous pensiez que ça n'aurait plus d'effet aujourd'hui?
Parce qu'entre-temps, le goût musical des gens a évolué. Ce qu'on écoutait, moi, ce que j'écoutais beaucoup, c'était du rock and roll noir et du jazz noir américain. Et par conséquent, je ne pensais pas qu'en 2000, puisque j'ai commencé dans les années 2000, je ne pensais pas que la jeunesse s'intéresserait à ce genre de musique, qu'elle danserait là-dessus. Mais je m'étais trompé, en tout cas, à cet égard.
Et puis, en plus de faire danser les gens, votre discographie les fait aussi voyager dans le temps. Donc, quels sont vos styles de prédilection et pourquoi?
En fait, j'aime beaucoup, beaucoup de styles, mais j'ai, si vous voulez, un certain profil. C'est-à-dire que ce que je diffuse comme musique, essentiellement, dans les soirées, ça va être de la musique jouée et exécuté, chanté par des Noirs américains, mais des Noirs des Caraïbes aussi, parce qu'entre-temps, évidemment, j'ai élargi mon champ, si on veut, mon champ d'intérêt, qui avant était un petit peu confiné au jazz et au blues. Et je me suis beaucoup intéressé à la musique des Caraïbes, notamment à la musique afro-cubaine, et ça, c'est plus récent, évidemment. Et par conséquent, si vous voulez, je passe de la musique de différentes, on va dire, ère culturelle, hein, peut-être des États-Unis, avec le jazz, le blues, le rythme blues, mais ça peut être aussi la musique afro-cubaine, avec le son, le danson et d'autres styles de musique afro-cubaine ou colombienne comme la cumbia par exemple et d'autres styles comme ça. Ça peut être aussi le calypso, ça peut être aussi le ska et le reggae que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais il y a une certaine unité, c'est-à-dire que toutes ces musiques proviennent finalement soit des Caraïbes, soit d'Amérique du Nord, on va dire, c'est une zone relativement, enfin, si on prend à l'échelle de la planète, une zone relativement délimitée.
Et du coup, on va écouter un premier titre, Black and Tan Fantasy, de Duke Ellington et son orchestre alors.
Voilà, ça date de 1927.
Continue à parler de musique et partage avec vous DJ Mitch. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter alors ?
Alors on vient d'écouter un morceau de l'orchestre de Duke Ellington qui date de 1927, Black and Tan Fantasy, qui est un morceau qui est de la musique de danse et qui était diffusé à l'époque dans le club où Duke Ellington jouait. Il jouait à l'époque au Kentucky Club. Donc, pas encore au Cotton Club, c'est juste avant. Et c'est le genre de musique sur laquelle on lançait pendant la Prohibition 1927. C'est un blues d'ailleurs, pas trop rapide, donc ça permettait à des couples de se rapprocher.
Et avant le confinement, vous donniez une conférence musicale un dimanche par mois à la galerie. L'envie de transmettre l'histoire de la musique, elle vient d'où ? Parce qu'on le voit, vous regorgez d'informations.
Ah oui, parce que je me... Bon, je suis historien de formation, donc c'est aussi un peu, on va dire, petit défaut professionnel. J'avais envie de pas seulement me... On va dire passer de la musique dans des soirées, mais aussi un petit peu de la faire connaître, de la faire découvrir au maximum de gens possible, et surtout de la replacer dans son contexte. C'est-à-dire que cette musique, elle est créée par des gens, des personnes qui vivent à une certaine époque, dans un certain lieu, où il se passe un certain nombre de choses. Donc j'avais envie un petit peu de la replacer dans son environnement historique, en l'occurrence en 1927, au Duke Ellington, dans l'Amérique ségrégée de l'époque, ou même dans les villes du nord des États-Unis, comme Chicago, comme New York, les noirs et les blancs se mélangent extrêmement peu. Il y a une ségrégation quand même rigoureuse, les gens n'habitent pas dans les mêmes quartiers, ils peuvent se retrouver en certains endroits, bien sûr, comme des clubs qui sont généralement situés dans les parties afro-américaines de la ville, évidemment. C'est plus facile pour des blancs d'aller chez des noirs qu'au contraire.
Mmh. Et vous pensez qu'on écoute différemment un morceau quand on est conscient du contexte dans lequel il a été joué, écrit ?
Alors très certainement, par exemple, j'ai pendant longtemps écouté des blues sans me préoccuper de savoir ce que ça voulait dire et quel était le sens des paroles. Je dois dire que quand on s'intéresse au texte, c'est-à-dire quand même au message qui est véhiculé par la chanson, puisqu'une chanson, il y a un texte, si les gens écrivent un texte, c'est qu'ils ont quelque chose à dire, pas seulement à exprimer mélodiquement, musicalement, mais quelque chose à dire, je pense que c'est important, oui, bien sûr, d'avoir quelques idées sur comment, dans quelles conditions tout ça a pu se créer.
Et donc, je l'ai dit en introduction, vous publiez toutes les semaines un nouvel épisode de Jazz, Rumba et Calypso sur votre chaîne YouTube. Quelle est l'ambition de ce projet ?
Alors, l'ambition de ce projet, c'est effectivement de donner une présentation, on va dire, chronologique d'un certain nombre de musiques noires. C'est pour ça que j'ai mis quelques musiques noires et créoles à travers le photographe et le cinéma, parce que je n'ai pas l'ambition, évidemment, de parler de toutes les musiques noires et métisses qui ont pu exister depuis l'invention du phonographe et depuis l'invention du cinéma. Donc je me suis limité à quelques musiques qui sont celles que je connais le mieux, mais ça n'a pas la prétention d'être exhaustif. Mais ça donne quand même une idée, ça donne aussi une idée de la circulation de ces musiques les unes par rapport aux autres. Elle est plus importante que ce qu'on croit. L'impression que, bon, voilà, Cuba, il y a une musique cubaine, aux États-Unis, il y a du jazz, du blues, et puis il y a peu de rapport entre ces musiques. Ça n'est pas vrai, parce que les artistes font des tournées, les musiques circulent, même si les moyens de communication, de diffusion sont évidemment moins nombreux à cette époque, en tout cas dans les années 10, les années 20, qu'elles ne le sont actuellement. Il y a une world music, déjà, dès le départ, dès l'invention du phonographe. Je rappelle quand même que dans les salons parisiens et américains, on danse la matiche brésilienne dès les années 1900. Donc, le tango, que je sache, n'est pas une danse francophone. Ça vient d'Argentine, le foxtrot, ça vient d'Amérique. Le quechua, qu'on a commencé à danser à Paris en 1902-1903, à la suite d'une tournée d'artistes qui présentaient cette danse, était extrêmement populaire. Il y a une circulation qui est beaucoup plus importante qu'on croit, et il y a déjà une certaine forme de mondialisation, on va dire, de la musique populaire, comme d'ailleurs dans la musique, on va dire, savante.
Et comment est-ce que vous faites pour trouver les images d'archives ? Parce que puisque c'est une histoire de la musique, pourquoi intégrer l'image ? En fait.
Alors, intégrer l'image, ça permet peut-être déjà d'abord d'avoir une idée de la tête des artistes qui sont diffusés. Je trouve que ça donne quand même un certain nombre d'indications. Évidemment, je suis limité dans mon choix dans la mesure où j'utilise ce que je trouve sur Internet. Je n'ai pas fait de voyage par rapport à ce projet. Ce serait quand même très très compliqué. pour aller consulter dans la bibliothèque des collections photographiques, etc. J'utilise ce que je trouve sur Internet. Mais on trouve déjà beaucoup de choses. Il y a énormément de documentation comme ça qui circule sur le web, et je trouve intéressant de pouvoir utiliser précisément des documents que tout le monde peut regarder, que tout le monde pourrait se procurer, notamment ces vieux films. Dont certains, on voit Joséphine Baker danser en 1925 ou 1926, c'est des films qui circulent sur la toile. Il suffit de taper le nom et on trouve.
Et combien d'épisodes sont prévus ?
Pardon ?
Combien est-ce que vous prévoyez d'épisodes ? Vous allez terminer la série en période contemporaine ?
Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Ça me paraît mal parti pour ça, mais je pense que je vais arriver quand même à des époques plus récentes, qui vont être plus familières aux oreilles modernes. Et là, ça dépend un peu, il y a pas mal d'aller en ce moment avec cette épidémie qui court, donc c'est très difficile d'assigner un terme à sa propre existence. Pour pas sauf accident, j'espère pouvoir continuer pendant un certain temps. Pas dire sans donner plus de précision.
Et à la réouverture de la galerie, ça reprendra donc en vrai ?
Ça reprendra en vrai parce que je pense que c'est plus. C'est quand même plus intéressant d'avoir des gens en face de soi avec qui on peut échanger que d'avoir simplement le mettre sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, j'ai des difficultés avec les questions de copyright.
Oui, l'épisode de ce week-end est compromis.
Voilà, le dernier épisode, le cinquième, a été refusé par YouTube et je suis en train de chercher des alternatives. D'ailleurs, je suis preneur de toute proposition à cet égard.
Bon, alors le message est passé et en attendant, on peut déjà regarder les quatre premiers épisodes de Jazz, Rumba et Calypso, une histoire de quelques musiques noires et créoles à travers le phonographe et le cinéma. C'est donc un documentaire qui sort au rythme d'une heure par semaine sur la chaîne YouTube de DJ Mitch, Kaya Michel, avec un T et tout attaché. Ça regorge d'informations, c'est passionnant vraiment et évidemment on appréciera d'autant plus vos prochains lives quand on pourra de nouveau aller danser tous ensemble. Mitch, merci infiniment et très bonne journée.
Merci beaucoup. Thank you.
radiovostok.ch.